Vous écoutez
RMC.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on commence avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. La justice est-elle trop laxiste? Le maire de Kievrechain dans le Nord a démissionné pour dénoncer le dysfonctionnement de la justice, justement. En effet, un mineur avait été interpellé dans sa commune par la police pour conduite sur une moto non immatriculée, sans casque et refus d'obtempérer. Mais ce jeune est reparti libre et avec sa moto, puisque la procureure a estimé que les faits reprochés ne relevaient pas du rodéo urbain, une décision que comprend à moitié le chef d'entreprise Mehdi Ghezard.
Quand un gamin mineur roule sur une moto de compétition, parce que c'est une moto de compétition qui a été prise, hein, d'accord, sur une moto de compétition sans casque en plein centre-ville, c'est un trouble à l'ordre public. Donc, il est évident que c'est un mineur, que je ne vais pas l'envoyer à Guantanamo, le sujet n'est pas là. Moi, ce qui me fait mal au cœur, je vais vous le dire, c'est que comme tout délinquant, quand tu veux punir un délinquant, c'est pas en le mettant en garde à vue ou en prison, c'est pas ça qui va changer les choses. Ça, c'est une certitude pour moi, c'est pas une solution. Mais, au moins, en lui confisquant, c'est bien matériel. Donc, je suis pas choqué que le gamin sorte, c'est normal. Il a 17 ans, il est mineur, ses parents sont venus le chercher, ok. Mais, que tu lui remettes la bécane le lendemain.
Ça, oui, c'est pas possible.
C'est pas possible, c'est une honte. Ça, je suis vraiment scandalisé.
Oui. Non mais c'est vrai que quand c'est raconté par Mehdi Ghezard, Perico Légas, oui, effectivement, ça semble scandaleux, quoi.
Il y a une partie de la magistrature aujourd'hui qui juge en vertu de l'idéologie. Voilà. C'est comme ça.
Quelle idéologie, on peut savoir?
Une idéologie que celui qui commet un délit est le victime d'une société qui l'a poussé à commettre ce délit.
Voilà. Alors c'est un tout petit peu plus complexe que la caricature.
Oui, c'est pour ça que je suis prudent, mais mesuré.
C'est pour ça que je
pourrais être plus tranché de ce que je veux dire.
À la question,
je vais pas parler de gauchiste.
La justice est-elle trop laxiste?
On avait compris, hein.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, en l'occurrence, alors bien évidemment, en racontant l'anecdote, c'est affligeant. On ne lui rend pas le véhicule, c'est une évidence. Il est délinquant, il n'a pas respecté la loi. Le véhicule est réquisitionné et récupéré et on n'a pas à lui rendre derrière. Donc évidemment que ce cas-là est caricatural au possible et est critiquable, donc. Mais de là dire que la justice, avec un grand L, est...
Non, j'ai parlé de magistrats. On parle de certains magistrats que tu connais bien.
Et dans l'occurrence, certains magistrats, il peut y en avoir. Je ne dis pas le contraire. En l'occurrence, pour ce cas très précis, effectivement, la procureure fait preuve d'un trop grand laxisme, teinté ou non, on n'en sait rien, et tu n'en sais rien d'idéologie. En tout cas, elle l'a libéré, c'est une certitude. On est d'accord. De là à dire que la justice en tout cas une partie des procureurs et des magistrats sont touchés par une part d'idéologie sous-jacente qui indiquerait que
ils ne
sont pas responsables de leurs actes, mais sont le fruit de la société. Ça, c'est beaucoup.
Et le mur des cons, c'est un leurre.
Mais c'est un mur. C'est un syndicat. C'est pas la justice. C'est trois personnes qui ont été effectivement coupables d'avoir affiché le mur des cons. Trois juges sur l'ensemble des magistrats dans leur intégralité souffrent énormément.
Il y a un certain nombre de présomptions qui permettent de penser qu'il y a dans la magistrature.
Mais il y en a. Ça, je dis pas le contraire.
Le débat, c'est pas la justice, c'était le gauchiste.
Pourquoi est-ce qu'on a relâché?
Pas tous en même temps.
Perico, il y a des gens à gauche, il y a des gens à droite. Ok, là en l'occurrence, c'est un cas.
Mais t'as aussi des magistrats fachos.
Si vous voulez revenir sur le débat précisément. Je me pose la question sur le rôle des parents. Parce que ce gamin à 17 ans, qui lui a acheté la moto? Avec quel argent
il a ça, c'est un autre débat, Robert. Il y a des gamins de 17 ans qui gagnent de l'argent.
Quand on convoque les parents, la justice leur dit, écoutez, là, on va lui supprimer. Soit on lui met une amende, parce qu'il y a quand même une amende. C'est pas du rodéo, mais il était sans casque. Est-ce qu'il était, la moto était assurée ou pas assurée? Il y a une amende. Tant que vous payez pas l'amende, on vous garde, si vous voulez, le véhicule, on vous le rendra quand vous aurez payé l'amende. Mais je pense que la responsabilité des parents, elle est quand même importante pour un gamin de 17 ans.
Mais 17 ans,
si on lui rend sa moto, il va se sentir complètement, innocent de tout, et il peut y avoir un véritable accident avec peut-être
pas. Il me semble que la majorité pénale, c'est 15 ans, donc à 17 ans.
Mais le problème, c'est que tu lui rends la moto.
Il a peut-être, alors, à vérifier s'il y a eu pas une amende, mais ça me fera vraiment, je serais assez choqué qu'il n'y en ait pas.
Est-ce que lui appartient seulement? Est-ce que c'est pas ses parents?
Si lui a été rendu,
elle n'est pas immatriculée, donc.
C'est encore pire.
Est-ce qu'elle appartient pas aidé à payer ou autre chose?
Apolline Matin, ce matin sur RMC. En fait-on assez en France contre l'alcoolisme ? Aujourd'hui non reconnu comme une maladie, cette addiction touche de très nombreuses personnes, adolescents comme adultes. Témoignage ce matin sur RMC d'Olivia Leray, auteur du livre « De l'eau dans ton vin ». Olivia Leray, dont le père alcoolique a bien du mal à s'en sortir malgré cette cure de désintoxication.
Ça a commencé avec du vin, beaucoup, d'où le titre « De l'eau dans ton vin ». C'était plutôt du rosé, pour être très précise. Du pastis aussi, de temps en temps, au PMU du coin avec ses copains. Et dans une autre phase maintenant, il boit de la bière. Et lui, pour lui, c'est pas de l'alcool. Il dit « j'ai arrêté l'alcool, mais je bois de la bière ». C'est pour vous montrer à quel point c'est ancré et que c'est très grave. Le problème, c'est que une fois que t'as fait ta cure de désintoxication, tu sors, t'es mieux, ça s'est amélioré, je pense que t'es sur, tu repars du bon pied. Le problème, c'est qu'après, t'es relâché dans la nature. Et là, encore une fois, t'es face à toi-même. Et donc, du coup, tu reprends les habitudes que tu avais avant. Nous, on a essayé, par exemple, un service de soins de suite, ça s'appelle comme ça. Mais c'est un milieu hospitalier. Donc, du coup, tu te réinsères pas dans la société. Tu retrouves pas de la dignité. On te réapprend pas à te faire à manger tout seul. On te réapprend pas à t'aimer. On te réapprend pas à t'habiller. Et donc, du coup, t'es incapable de te remettre dans
une société. Et donc, fragile. Et donc, on retombe.
Exactement. C'est exactement ça.
Témoignage très fort ce matin d'Olivia Leray chez Apolline de Malherbe. Qu'est-ce qu'on fait, Robert Sebag? Elle le dit très bien, Olivia, c'est que une fois que tu rentres chez toi, si t'es alcoolique, c'est quand même compliqué de t'en sortir tout seul.
Les soins de suite, c'est une hospitalisation, si vous voulez.
C'est ça.
Il faudrait avoir quasiment un coach, si vous voulez, presque en permanence, parce que la rechute, c'est tout le problème de l'addiction en général. On en a beaucoup parlé avec l'affaire Palmade, si vous voulez. Vous avez l'alcoolisme, vous avez les drogues, et vous avez aussi la dépendance qui est très, très, très difficile à sevrer de tout ce qui concerne les barbituriques, les hypnotiques, les anxiolytiques. Et ça, en France, c'est un vrai, vrai sujet. Et je vous assure que tous les spécialistes d'addictologie vous disent que c'est beaucoup plus difficile de sevrer quelqu'un qui est sous anxiolytique et hypnotique que de toxicomanie, en particulier de cocaïne. Alors là-dessus, c'est pas le problème d'être reconnu comme maladie ou pas comme maladie, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait sur le long terme.
Ben oui.
Parce que l'addiction, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors vous avez les groupes d'alcooliques anonymes, on arrive à s'en sortir, mais on fait quoi après? C'est pas l'hospitalisation n'est pas une réponse, si vous voulez.
Il faudrait avoir
un suivi régulier, un suivi psychologique, un suivi parfois psychiatrique, parce que parfois l'addiction, c'est une véritable maladie. L'addiction est une maladie. L'alcoolisme est une partie de ces addictions.
Mais l'alcoolisme est peut-être plus dur à détecter parce que justement c'est légal. Enfin, l'alcoolisme, c'est pas que c'est légal, oui, mais l'alcool est légal.
Oui,
donc
mais les gens sont conscients au bout d'un moment.
L'alcool est légal. Il y a aussi, encore une fois, peut-être qu'on pourra me dire le contraire ou l'inverse, mais j'ai le sentiment, moi, à mon échelle, qu'il y a une banalisation de la consommation d'alcool. Et au même contraire.
On consomme de moins en moins, d'ailleurs.
C'est vrai, mais on est toujours dans l'idée que l'alcool, c'est avant tout festif.
C'est ça.
L'alcool, c'est avant tout pour se faire plaisir. L'alcool, c'est le lien social. Oui. C'est effectivement, on va toujours être étonné en soirée de voir quelqu'un qui ne boit pas. Mm-hmm. Toujours, tout le monde est là à festoyer et quelqu'un au milieu qui dit non, je bois pas. Bon, t'es malade, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est bizarre. C'est toujours étonnant de voir quelqu'un qui ne boit pas. Il y a un élément, par exemple, qui m'a toujours surpris dans les bars, alors qui est lié en conséquence à l'alcoolisme futur. C'est pourquoi l'happy hour, c'est que l'alcool qui est moins cher. Dans les bars, à l'happy hour, c'est que l'alcool qui est moins cher.
C'est vrai,
un jus d'orange, un jus de pomme, à l'happy hour, non. C'est un prix unique. C'est que la pinte de bière, c'est que le verre de vin en happy hour.
Mais c'est vrai que c'est assez étonnant. Vous trouvez qu'on en fait assez, vous, Perico Légas, contre l'alcoolisme?
On n'en a jamais autant fait, c'est peut-être pas suffisant. Ouais. Mais voilà, la France est à un combat parce qu'il y a eu des ravages sociaux. L'alcoolisme, et moi qui suis défenseur du vin, le vin a été une source d'alcoolisme massif dans les années au début du siècle, et on sait le pinard, voilà, et ça a fait des ravages. La chose, grâce à la prise de conscience, a beaucoup évolué. On consomme des boissons alcoolisées malgré qu'il y ait de l'alcool. Moi, je bois du vin. Je regrette qu'il y ait de l'alcool. Je constate qu'il y a de l'alcool, mais je ne bois pas parce qu'il y a de l'alcool, ni pour l'effet que ça fait sur moi. C'est un ensemble culturel et gustatif sensoriel. Voilà. Et s'il pouvait ne pas y en avoir, j'en serais ravi. Et pour autant, je pense que la communication du gouvernement et des pouvoirs publics, je pense pas qu'on peut en faire plus. On résoudra jamais à 100% le problème. Et pourtant, le problème des addictions, qui est une autre échelle, peut-être que l'addiction, elle peut se soigner peut-être par une initiation, ou je sais pas. On est dans le psychologique, là.
Mais vous savez, le problème de l'alcoolisme, si vous permettez, Estelle, c'est un problème qui est mondial. Je veux dire, il faut pas le regarder uniquement à travers la France, c'est un problème culturel. vous avez dans les pays du Sud et en Afrique, s'il n'y a pas de vin, s'il n'y a pas d'alcool, ça va être autre chose. D'accord. Donc ça veut dire que les gens sont toujours à la recherche, si vous voulez, de paradis artificiels, entre guillemets, de désinhibition, parce qu'ils sont mal dans leur peau, parce qu'il y a une situation politique, économique, sociale. Donc ça, il faut aussi le prendre en compte. C'est vraiment universel. Malheureusement, c'est universel.
J'ai entendu des scientifiques.
J'ai regardé ça.
Dans le sens de ce que tu dis, j'ai entendu des scientifiques expliquer si on coupait la vodka aux Russes, ça serait une tragédie sociale.
Mais le cas en Éthiopie, partout, en fait, les alcools de riz.
Non, mais là, pour la température, ils tiennent. Ils lâchent les calories de l'alcool.
Ça permet de tenir le point.
On va terminer avec Apolline Matin. On va parler chirurgie esthétique. Tiens, une grosse tendance chez les hommes. La mâchoire d'un homme est-elle un attribut viril? Pour certains hommes, il semblerait que oui, puisque Charles Magnin nous a révélé ce matin que les hommes étaient de plus en plus nombreux à se faire refaire la mâchoire. Écoutez.
Objectif, une mâchoire bien carrée.
À l'américaine, un peu.
À l'américaine, si vous voulez, Apolline. En tout cas, c'est l'édition britannique du magazine GQ qui a enquêté sur ce phénomène. Ces hommes qui passent sous le bistouri pour subir un avancement maxillo-mandibulaire et une génioplastie, opération qui peut coûter jusqu'à 20 000 euros et qui consiste donc à casser la mâchoire du patient et son menton avant de recoller les morceaux en avançant la ligne maxillaire pour avoir la mâchoire la plus carrée possible. Et le magazine a interrogé un chirurgien de Barcelone qui se décrit comme un charpentier de la mâchoire. Son nombre de patients a doublé en 5 ans. Des avocats, des ingénieurs, des médecins, des employés de la tech. Allemand. Et c'est un cliché très occidental, cette mâchoire carrée qui rendrait viril, parce qu'à l'inverse, en Chine et en Corée, des hommes consultent pour se faire radoucir la mâchoire. Tout est une question de point de vue.
J'adore ces mâchoires et les photos utilisées par Charles. Pierre Rondeau, tiens.
Moi, non, j'ai pas la.
Petite chirurgie de la mâchoire.
Non, pas.
Parce que vous êtes barbu, donc on la voit pas. Donc
voilà, déjà, de fait, oui. Donc ça, non. Et moi, je demande directement à la gente féminine, c'est vraiment un attribut. Parce que là, c'est des hommes
qui
prennent la décision, mais est-ce que les femmes aiment les mâchoires carrées?
Bah, moi, oui, mais ça, je suis la seule femme sur ce plateau. Donc,
Vous êtes la représentante de la gente féminine.
Ah, ben moi, je dis oui, mais bien sûr, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a, Perico?
Être grande gueule, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose.
Là, c'est grande mâchoire.
Ah, bah oui, c'est ça, c'est la grande gueule.
Rappelez-vous les gueules cassées après la première guerre.
Dès qu'il y a un truc un peu sympa, j'ai failli le dire.
Je suis pas contre la chirurgie esthétique, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin de casser les maxillaires,
Ressouder
le menton.
Oui,
autant
c'est
anodin, je peux accepter sur le nez, les oreilles, certaines choses. Oui. Là, c'est pas anodin. Ça veut dire que vous prenez aussi
la gueule. C'est pas anodin non plus.
On te refait la gueule.
Ça s'appelle la chirurgie esthétique. Robert, c'est comme ça.
Il y a des ratages. Je ne vais pas citer de nom, mais il y a des ratages.
Il y a aussi des réussites.
Et là, on ne peut pas faire marche arrière.